Panstar de la cause écologiste est-elle devenue en grandissant une activiste pro-Gaza qui ne s'offusque pas de partir en flottille à bord d'un bateau affrété par un soutien du Hamas? Mickaël Prazan vous dit tout. Plein de choses encore dans ce numéro 188 de Franc Tireur et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, existentiel, et qui nous parle de ces guerres qu'il faut faire pour avoir la paix et de celles que l'on fait pour que l'on vous fiche la paix. Ce ne sont pas les mêmes et c'est d'Israël dont on parle évidemment, mais pas que, d'Israël et de Benjamin Netanyahou. Pourquoi l'Iran n'est pas Gaza, c'est ce que démontre Raphaël Enthoven cette semaine. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons désormais en une de notre journal, où l'on tient le compte de ses jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 214 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre, à franc-tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.
Merci Tristan, à la semaine prochaine, 13h01 sur RCG. Pour finir cette édition, l'histoire juive du jour, c'est avec vous, Jérôme Attal.
L'histoire du jour, Jérôme Attal.
Le 19 juin 1269, le roi de France Louis IX, dit Saint-Louis, petit-fils de Philippe Auguste, à la veille de son départ pour la 8e croisade, imposa aux juifs de son royaume le port d'une marque distinctive, la rouelle, c'est-à-dire un rond découpé en forme de roue de 4 doigts de circonférence qui devait être attaché aux vêtements de dessus, du niveau de la poitrine et du dos, pour les hommes, et un bonnet spécial pour les femmes, pour les distinguer du reste de la population et prévenir les unions mixtes. Le port de la rouelle, par les Juifs de France, avait été décidé par le 4e Concile du Latran en 1215. Ce décret est certainement la décision royale relative aux Juifs la plus importante du long règne de Louis IX. Le port de la rouelle était obligatoire dès l'âge de 7 ans. Tout Juif trouvé sans l'insigne, son vêtement était confisqué au profit de son dénonciateur. Les Juifs doivent également cesser de cohabiter avec les chrétiens. C'est la naissance du concept de ghetto, mais le terme lui-même apparaîtra en Italie que 2 siècles plus tard. Déjà en 1240, à la demande de Nicolas Donnin, un juif converti au christianisme, issu d'une famille juive pieuse, qui porta le nom de Shaoul, obligea les juifs à participer à un procès du Talmud. À cette époque, les juifs ne sont tolérés que parce qu'ils sont un rappel permanent de la passion du Christ. De 1269 et jusqu'à leur expulsion définitive du royaume en 1394, les juifs de France sont astreints au port de l'insigne infâme. Alors qu'au contraire, Alphonse de Poitiers, le frère de Saint-Louis, ordonna lui aussi aux Juifs de porter la rouelle, sauf s'ils payaient une taxe pour ne pas avoir à la porter. Aussi, tandis que Saint-Louis avait interdit aux Juifs de prêter de l'argent à des taux d'intérêt excessifs et de posséder des biens immobiliers, son frère le désirait pour s'enrichir sur le dos des Juifs. Le décret avait également une dimension économique, car il limitait la concurrence des marchands juifs. L'insigne devint un symbole d'oppression et d'humiliation. Nous sommes le 19 juin.
Jérôme Attal, c'est la fin de cette édition sur RCG. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On refait un dernier point sur les blessés à la suite de ces tirs de l'Iran contre Israël. Ce matin, ils sont au nombre de 147, 3 dans un état grave et tous les autres dans un état modéré à léger, et tous pris en charge dans de nombreux hôpitaux d'Israël. On continuera bien sûr à suivre cette situation avec vous. On se retrouve demain dès 8h pour la suite de l'information. Et dans un instant, retrouvez votre émission S'engager, l'émission de la direction de l'action sociale du Fonds social juif unifié. Très belle journée malgré tout sur RCJ.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid n'est payé pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais. est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Eh bien que miséreux, avec le ventre que nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous eu génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin d'un matin café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor mon matre semble triste et les lilas sont morts.
RCJ 94.8 et radio rcj.info. Le rendez-vous de l'action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zenagrima et Fabien Azoulay.
S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU. Bonjour à tous et bon appétit. La Fondation, aujourd'hui nous faisons une émission sur les tisseurs de liens. C'est un petit clin d'œil à la communication de la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de liens sociaux. J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec André Katz, qui est directrice de Passerelle, responsable du pôle senior au FSJU et qui a accepté de co-animer avec moi cette émission sur le sujet du lien social, indispensable ou bien vieillir, sujet qu'elle connaît parfaitement. Autour de cette table, nous avons la chance d'avoir M. Yann Lagnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres depuis 4 ans, Daphna Mouchnik, directrice de Longévitaillé, donc une structure d'aide à domicile. Nous avons la chance d'avoir Madame Simone, qui est bénévole au service partage. Elle va tout nous dire sur son engagement. Et nous aurons le plaisir d'avoir aussi Monsieur Bernard, 87 ans, qui sera avec nous par téléphone parce qu'il est bénéficiaire de partage et qui nous racontera un petit peu comment se passe tout ça et quelle aide ça lui apporte. Donc aujourd'hui, les petits frères des pauvres pointent l'importance du lien social et l'étendue de l'isolement social, notamment sur les seniors et en situation de précarité. Ainsi, 530 000 personnes seraient en situation de mort sociale et plus de 2 millions en grande fragilité sociale. 30 000 personnes sont accompagnées par des bénévoles et sur des actions de prévention et de sensibilisation. La France vieillit bien sûr et massivement. Selon l'INSEE, près de 19 millions de personnes ont 65 ans et plus. Ils représentent 21% de la population en forte hausse d'ailleurs depuis 90 et 35% de nos aînés ont 75 ans et plus. Donc aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui là pour un fait notable. Les seniors qui vivent à domicile sont moins souvent en perte d'autonomie qu'en 2015, alors même qu'en parallèle, la proportion des personnes âgées accueillies en établissement a aussi baissé. L'espérance de vie a donc augmenté sur la période et concerne les seniors vivant à domicile, et la dépendance concerne, selon son degré, entre 3 et 8% d'entre eux. Donc aujourd'hui, pour en parler, Yann Lagnier, vous êtes donc directeur général des Petits Frères des Pauvres, une association de 80 ans d'existence. Vous êtes co-auteur du livre « Bien vieillir, 50 solutions pour les territoires » avec M. Boris Vernon. et qui est paru en 2014. Je vous ai proposé 50 propositions et d'inspirations pour adapter les territoires au vieillissement accéléré de la population. Ces 50 mesures, ils sont là, faciles à mettre en œuvre avec un budget limité, dites-vous, auraient un impact fort sur la vie quotidienne. Tout ceci dans une perspective intergénérationnelle. Vous allez nous en parler. Daphna Mouchnik, vous êtes donc diplômée en travail social à Sciences Po. Vous avez fondé Longévité qu'on ne présente plus et qu'on adore, avec laquelle on adore travailler. C'est une entreprise d'aide à domicile basée à Paris qui est dédiée à l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, des survivants de la Shoah. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages qui témoignent de votre expérience et de celle de vos équipes sur le terrain. Vous partagez vos constats, vos actions concrètes mises en place pour valoriser l'engagement de vos équipes d'aide à domicile en favorisant les conditions de travail et en mettant le bénéficiaire au cœur de tous les projets. Madame Simone, vous êtes donc bénévole depuis un an, vous partagerez avec nous votre expérience et Monsieur Bernard aussi, dans le département du Nord, partagera son expérience. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, on peut commencer déjà, si vous voulez, Mme Lannit, pour nous dire un peu ce qu'on appelle l'isolement social, un peu les causes rapidement. Et puis ensuite, on entamera notre débat sur comment les villes se sont saisies dans la lutte contre l'isolement social, comment mettre la ville à hauteur des personnes âgées. Et on échangera autour de ce premier thème.
Merci, bonjour à toutes et bonjour à vos auditeurs et auditrices. L'isolement social aujourd'hui, c'est quelque chose qui se différencie de la solitude et du sentiment de solitude. Les petits frères des pauvres, vous l'avez rappelé, agissent prioritairement pour les seniors depuis près de 80 ans. L'association fêtera son 80e anniversaire l'année prochaine. Mais l'isolement social et ce sentiment de solitude, c'est quelque chose qui existe dans toutes les catégories d'âge et les catégories sociales de la population, dans la population française aujourd'hui. Je le rappelle à chaque fois, parce qu'on a tendance à penser que cette question de l'isolement social, elle n'est présente que chez les personnes âgées. Parfois, elle se construit tout au long de la vie et quand les personnes sont en âge d'être accompagnées par les petits frères des pauvres, au-delà de 50 ans, notamment pour ceux qui ont connu des parcours de grande précarité, on s'aperçoit que l'isolement a pu commencer très tôt dans la vie des personnes. Et il y a des mamans solo isolées, aujourd'hui il y a des enfants isolés, il peut y avoir des couples isolés. Enfin, il y a cet isolement social et cette perte du lien social, elle prend des formes assez différentes, d'où l'importance, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, à accorder et à développer surtout des politiques de prévention, de préservation du lien social. Et j'ajouterai surtout en ce moment de lien entre les générations. Je suis à titre personnel très très inquiet et très préoccupé par les fractures générationnelles que je vois se mettre à l'œuvre aujourd'hui dans la société française. Et aujourd'hui, on va définir l'isolement social. Vous avez, madame, rappelé les chiffres des petits frères des pauvres. 530 000 personnes de plus de 60 ans en situation de mort sociale dans notre pays. Ça, ce sont nos chiffres de 2021. Nous sortirons un baromètre le 1er octobre prochain, donc avec les chiffres de 2025. Et même si je ne peux pas vous les révéler aujourd'hui, je vous les révélerai le 1er octobre prochain, ces derniers sont effrayants. La mort sociale, c'est être coupé de quatre cercles de sociabilité. La famille, les amis, les voisins, la vie associative. Alors, on a pris ces quatre cercles-là, on aurait pu en prendre d'autres, notamment le travail, si on s'était adressé à des gens un petit peu plus jeunes. Mais c'est l'altération totale des contacts. Et c'est pas des gens qui sont forcément en institution, en EHPAD, à l'hôpital, etc. Vous avez des gens chez eux qui sont aujourd'hui, qui ne parlent à personne et qui ne voient personne. Et vous l'avez rappelé également, 2 millions de personnes sont en situation de grande fragilité sociale. Ce qui nous fait dire, pour terminer et pas être trop long, que cette question du lien social est une question éminemment politique. On va avoir des élections municipales l'année prochaine. La question du lien social et la question du vieillissement, il y a un mur démographique dont on va de plus en plus parler. Les boomers vont avoir 85 ans en 2030, en gros, donc ce sera le prochain mandat municipal. Cette question du vieillissement de la population, elle doit être au cœur des deux prochaines mandatures municipales pour que notre pays puisse ne pas se retrouver dans une guerre entre les générations qui, s'il y a 2-3 ans, on a écrit un rapport là-dessus, on pensait qu'elle n'allait pas avoir lieu, je n'écrirais pas la même chose aujourd'hui.
Quand vous parlez de fracture générationnelle et que ça vous, enfin c'est particulièrement marquant maintenant, il y a quelque chose de paradoxal parce que on n'arrête pas de parler dans les politiques publiques d'initiatives pour faire se rejoindre justement les générations. J'étais aux Assises du bien vieillir à Strasbourg, où on parlait des volontaires en service civique qui sont axés sur l'accompagnement des seniors. Carole Gadet, avec qui on a travaillé, parle beaucoup de liens intergénérationnels, de transmission, de l'enrichissement mutuel. Et vous dites qu'il y a une fracture générationnelle qui s'accentue.
Ça fait 4 ans qu'on parle tous les jours de la question des retraites dans notre pays.
Oui.
Ça fait 4 à 5 ans qu'on parle aussi du patrimoine aujourd'hui des plus âgés dans notre pays. Alors ça, ça ne concerne pas en grande majorité les personnes accompagnées par les petits frères des pauvres, puisque comme notre nom l'indique, on va s'intéresser aux plus précaires et aux plus vulnérables économiquement. Mais aujourd'hui, quand je prends les chiffres de la pauvreté, 14% des personnes dans le pays vivent sous le seuil de pauvreté et 10% des plus de 60 ans. Donc vous avez souvent sur les plateaux des gens très doctement qui vont vous expliquer qu'il y a plus de jeunes pauvres que de vieux pauvres. C'est la réalité statistique aujourd'hui. Mais en disant ça, on a tendance à nier que 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. Et c'est souvent cette question patrimoniale et cette question qui, je comprends, peut faire peur aussi à quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui et qui commence à voir sur les réseaux sociaux. Il y a tout un tas de comptes qui commencent à exister comme ça. En gros, c'est nous les jeunes qui payent. C'est nous les jeunes qui vont payer. Et cette fracture générationnelle, elle s'installe à la fois sur des questions de concentration du patrimoine, de différence de mode de vie, et surtout sur des questions assez à venir, où il y a une, il y a au-delà de l'angoisse climatique qui taraude beaucoup les jeunes générations, et je les comprends totalement, qui peut être, et en plus demain il va falloir payer pour les générations à venir. Comme il y a un consentement à l'impôt, le consentement à la solidarité, il est pas, et on le fait pas d'un claquement de doigts, et on voit très bien dans le moment que nous vivons que ça peut être remis en cause, hein, tout simplement par des comportements. C'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est que le consentement à la solidarité, je travaille aujourd'hui, je suis un salarié moi aussi, je travaille aujourd'hui pour la retraite des personnes qui y sont, eh bien, j'aimerais qu'on fasse plus de pédagogie sur ça. Aujourd'hui, il va y avoir globalement, dans peu de temps, un actif pour un retraité. Donc, le système de financement des solidarités, il va falloir absolument le modifier. De toute façon, voilà. Donc, soit on regarde ailleurs, comme disait un célèbre président de la République, soit on s'y colle, et effectivement, il faut aller sur des sujets qui sont des sujets irritants pour la société. La question de l'héritage, la question du financement, la question de l'assurance, sur la perte d'autonomie, enfin, il y a tout un tas de sujets comme ça. Et c'est pour ça, madame, que sur l'intergénérationnel, moi, je me bagarre un peu sur l'intergénérationnel factice. Alors, il y a des choses qui... Il y a des petites choses comme ça. Mais globalement, dans la société, je vois quand même des lignes de fracture se mettre en place et comme je le disais tout à l'heure, ça me préoccupe.
Où on voit effectivement que nos aînés, ils ne sont pas tout à fait privilégiés. Comment, je pensais, vous parliez dans une interview du label Ville Amie des Aînés, comment aujourd'hui on peut réinvestir les villes sur la question de voir nos aînés, ne serait-ce que dans la rue, d'y voir encore des bancs, de les mettre acteurs, qu'ils soient visibles, et ça devient compliqué aujourd'hui.
Alors, ce champ de l'âge est un des champs pour en tout cas les politiques qui s'y intéressent, où le nombre de rapports, de conseils divers est absolument phénoménal. J'y ai apporté ma pierre avec ce livre que vous avez cité, qui est sorti à la rentrée dernière, pour se dire, globalement, notre réflexion avec Boris Venon était la suivante, était de dire, aujourd'hui, une personne va peut-être être demain le maire ou la maire adjointe au senior d'une ville, elle le sait pas elle-même, parce que c'est pas forcément un sujet sur lequel elle s'est préparée. Et donc, on s'est amusé, en quelque sorte, à faire un petit programme clé en main qui parle d'âge et pas de perte d'autonomie. Parce que la perte d'autonomie, après 80 ans, 85 ans, ça touchera pas tous les octogénaires de ce pays, bien heureusement. C'est quelque chose qui relève plus des politiques d'État que des politiques municipales. Mais les élus, aujourd'hui, ont à peu près tout, mais il faut changer des choses dans les comportements. C'est vrai que la place des bancs, la place des toilettes publiques, par exemple, le fait de pouvoir favoriser les déplacements piétonniers, mais aussi, alors je vais pas vous citer les 50 points qu'on a mis dans ce livre, puisqu'on a mis sur, on, on est parti surtout du principe que cette question de l'âge, elle était holistique, elle touchait tous les pans de l'action municipale, que ce soit l'information, que ce soit la culture, où on pouvait changer les horaires des gens, les horaires des spectacles, par exemple, pour s'adapter aussi à une population qui vieillit, que ce soit la question de la mobilité et des transports. Et on voit très bien que on est encore qu'aux années aux années de début d'une politique vraiment pensée pour gérer un nombre de personnes âgées, vous avez raison, qui s'invisibilisent de plus en plus dans la ville, puisqu'il va y avoir des conflits d'usage. Quand une personne âgée va vouloir un banc, les habitants vont dire « oui, mais le banc, il y a des jeunes qui l'utilisent aussi à certains moments de la journée, et ça nous crée un désordre, etc. » Donc, il faut qu'on arrive à, justement, par l'intergénérationnel, à montrer que, ben voilà, il faut qu'on vive avec cette structure de population qui va évoluer de manière conséquente, et pas monter les uns contre les autres. C'est quand même très, très important.
Vous parliez aussi de, donc, au-delà de renforcer des liens sociaux dans vos programmes, adapter l'environnement, vous venez de le dire, urbain, et le logement aussi. La question du logement, c'est aussi une des questions qu'on travaille aussi beaucoup avec nos aînés, parce qu'on a la chance d'avoir des partenariats avec des bailleurs sociaux qui sont aussi très intéressés à ces questions-là, et on les encourage à adapter les appartements. Il y a aussi la question de la fracture numérique qui est aussi aujourd'hui, tant sur le plan administratif qu'au niveau de nos aînés, reste quand même un sujet sur lequel nous, on s'est un petit peu engagés. Donc toutes ces questions, protéger la santé, faciliter la mobilité, vous l'avez dit, encourager les partenariats locaux et les participations citoyennes. Donc c'est un programme qui est très complet et qui vise à prendre l'entièreté des difficultés de nos aînés dans le vivre ensemble, dans le vivre au quotidien ensemble. Et c'est extrêmement important. André, vous vouliez peut-être partager un peu ce que nous, peut-être, on fait, on essaye d'agir aussi au titre du Fonds social auprès de nos aînés, de ce que fait Passerelle, qui a été aussi un modèle.
Donc la difficulté, c'est que d'un côté, on est dans un pays extrêmement généreux en termes de dispositifs, on a plein de choses, on a des dispositifs que d'autres pays rêveraient d'avoir. Et puis, on a une espèce de nécrose de l'administration, des millefeuilles, des dispositifs. Les gens ont du mal à y accéder, les gens ne comprennent pas. On a tous les jours des appels de gens, d'aidants notamment, qui disent « Écoutez, voilà, je ne sais pas à qui m'adresser, comment faire pour placer mon père en EHPAD, pour avoir accès à des heures, au domicile, etc. » Et en fait, nous, on intervient non pas comme opérateur dans l'institution, mais plutôt dans l'interstice entre différents opérateurs quand il y a quelque chose qui nous semble manquer ou qui permet de faire le lien. Donc notamment effectivement Partage qui est le système du maintien du lien ou des visites de convivialité, d'aide administrative ponctuelle. On a créé un kiosque solidaire pour justement éviter que les personnes un peu vulnérables se fassent arnaquer par des prestataires qu'on paye, enfin que les gens payent évidemment, on essaie de négocier des prix mais ils font leur boulot. Tout corps de métier, mais aussi avec cet engagement de la part de ces prestataires qui sont quand même assez formidables d'être nos yeux et nos oreilles au domicile des gens. Et donc, ils viennent pour changer un joint et ils nous rappellent, ils nous disent « Écoutez, voilà, j'ai fait le boulot. Il faut quand même que je vous dise qu'il y a plein de tapis. Madame, elle n'a pas l'air d'être très équilibrée. Elle tombe un peu. Je trouvais que ça sentait mauvais. J'ai vu que le frigo, il n'était pas bon. » Tout ce qu'on peut découvrir dès lors qu'on va chez une personne âgée, et c'est extrêmement important parce que ça nous permet du coup d'activer des professionnels qui, eux, vont sur place ou vont activer qui de droit. Donc ça nous semble vraiment important. C'est vrai qu'on avait créé ce kiosque solidaire également parce que c'était une période où on avait pas mal de gens qui nous appelaient et qui s'étaient fait arnaquer. Il y avait aussi mort de femme, je dirais, Madame Knoll, qui était toute récente, qui nous avait beaucoup marqué. On la connaissait, c'était une charmante dame. Et c'était le début d'une ère, enfin c'était pas le début, mais en tout cas ça a quand même marqué quelque chose de très important pour les gens de la communauté juive et les aînés de la communauté juive qui ont commencé à avoir très peur. En plus, survivante de la Shoah, donc ça correspondait effectivement au public de Passerelle, qui est le troisième versant qui existe depuis 20 ans, qui est un accompagnement spécifique pour les survivants de la Shoah, étant donné des besoins spécifiques et des craintes spécifiques. Maintenant, pourquoi je disais tout ça? Je disais ça parce que... ce qu'on peut observer, et là peut-être que Daphna, ce serait bien que tu puisses nous dire, toi, quelle est ton expérience et comment toi tu vois les choses depuis l'OJVT et dans tes rapports avec tous tes partenaires. la difficulté qu'on a à faire se rencontrer les professionnels et les bénévoles. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que les bénévoles, ils sont, alors que pour nous, ils sont essentiels et ils nous ramènent des informations essentielles et ils apportent un bien-être essentiel. Je le dis pas parce que Simone est à côté de moi, mais parce que, voilà, on voit une réticence, une appréhension de la part des professionnels à partager et à prendre en compte avec tout le sérieux que ça mérite l'apport des bénévoles. C'est comme si, c'était un peu anecdotique. Alors que pour nous, c'est le début. C'est le lien qui permettra de mettre le doigt sur des difficultés et d'entrouvrir la porte et de voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. C'est pas le contraire. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont directement dans un service social et qui font état d'une difficulté, bien entendu, mais c'est très restreint. On sait la charge de travail des travailleurs sociaux. On sait qu'ils ont trop de mesures par rapport à, trop de situations par rapport à leur capacité de travail. Depuis le Covid, c'est bien pire parce que des tas de gens ont quitté le travail pour aller en campagne, pour aller faire autre chose, donner plus de sens ou s'occuper plus de soi-même. Tout ça, on connaît. Voilà, donc de votre point de vue à l'OJVT, comment vous voyez cette articulation bénévole-professionnelle ?
Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Alors, vaste sujet. En fait, nous, c'est le contre-pied qu'on a pris radicalement, en fait, parce que en réalité, tu l'as dit, André, on n'est pas en nombre suffisant pour accompagner les personnes qui nous sont confiées. Le temps dont dispose l'aide à domicile, l'auxiliaire de vie qui va venir, est là aussi insuffisant, même si les politiques sociales de notre pays sont généreuses. Elles sont quand même pas tout à fait adaptées aux personnes en tout cas de plus de 60 ans dans une situation physique et psychique très dégradée, très diminuée. Ces personnes ne vont pas avoir suffisamment, enfin autant de temps que s'ils étaient dans la même situation que s'ils avaient moins de 60 ans. Il y a une grande injustice dans nos politiques sociales selon notre âge. Donc ça, c'est une réalité. Et donc du coup, on va disposer de très peu de temps pour soutenir et accompagner une personne qui peut pas se lever, qui peut pas se laver, seule, qui peut pas faire ses courses, etc. Et donc on va au mieux avoir 2h30 par jour. L'auxiliaire de vie, la professionnelle qui viendra. Et donc, évidemment, au regard de ce peu de temps, en fait, tout l'environnement, toutes les personnes qui vont venir apporter leur soutien, leur aide, leur amitié, quand les proches ne sont pas sur place, et c'est quand même beaucoup le cas, et ben quand on a des bénévoles, enfin pour nous c'est fantastique, parce que en réalité nous, comme on dispose de peu de temps, et ben on le passe pour le vital, mais c'est pas ce qui donne du sens à l'existence, le vital. Ce qui donne du sens à l'existence, c'est d'être dans le lien, dans les projets, dans des moments de plaisir, dans des moments de voilà,
d'exister.
Alors on a cette chance de faire ce métier, de faire ces métiers, les professionnels du médico-social ont cette chance de faire ce métier de sens, où on est utile, où on sait pourquoi, enfin voilà. Et je dois vous dire que par les temps que nous vivons, je crois que cette utilité que j'ai, qu'on a pour les autres,
passe bien au-delà.
Nous sauve. Ouais, nous sauve. Et en tout cas, ces métiers de l'humain, ils ont besoin, enfin, ils ne doivent pas se séquencer entre eux. Là, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Et d'ailleurs, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'attachement, ma sortie, enfin, des choses comme ça. Et puis là, c'est des bénévoles ou c'est les proches. Et puis, il y a du lien, de l'attachement, mais c'est pas professionnel. Enfin, tout est lié, tout se mélange. Et c'est cette nécessité qu'on a d'être dans l'interdépendance les uns des autres, dans le bon sens du terme, qui fait qu'on va pouvoir accompagner dignement, correctement, la personne qui a besoin, in fine, de nos interventions. Il y a beaucoup d'affect. Enfin voilà, les auxiliaires de vie, quand elles perdent une personne qu'elles ont accompagnée des années. Bah évidemment, elles vont pas la pleurer comme on pleure sa maman ou sa grand-mère, mais on va la pleurer.
C'est voilà, et donc après ça, il y aura aussi du lien avec la bénévole, le bénévole qui aura été tous les jours chez cette même personne, avec la famille. Il y aura voilà, il y a des liens qui perdurent même après que la personne qu'on ait soutenue nous ait quitté. Et moi, je trouve que ça donne tellement de beauté et tellement de sens à ce que nous faisons que c'est surtout ça qu'on doit garder en tête.
Et Yann Lanier, chez vous, comment ça s'articule, votre armée de bénévoles avec les professionnels qui les encadrent et puis qui font le travail plus professionnel, technique?
Je ne sais pas à partir de combien de personnes on peut parler d'armée et de division, mais les petits frères des pauvres, c'est 15 000 bénévoles. Et pour vous donner et c'est 700 salariés. Donc on a vraiment des salariés qui sont en soutien de l'action bénévole, puisque le projet même de l'association, c'est d'agir par le bénévolat. Mm-hmm. Donc nous avons, parce que comme le disait Daphna avec émotion, nous avons des situations de plus en plus impliquantes qui aussi nous questionnent. Hein, envoyer quelqu'un à domicile dans des situations et qui simplement arrive chez nous pour parce qu'il a envie, de donner du temps. Il n'est pas toujours préparé à faire face à des situations. Vous savez, quand on a une personne qui a connu la mort sociale ou le très grand isolement social, on la remet pas dans la vie, dans la pulsion de vie, comme on dit aux petits frères des pauvres, d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui peut durer des mois, voire des années, avant que la personne retrouve des comportements sociaux qui lui permettent d'interagir normalement avec les autres personnes. Alors, ça va très très vite dans certains cas, et moi ce que je trouve absolument fantastique dans les fonctions qui sont les nôtres là-dessus, c'est que on a le pouvoir de changer la vie des gens en fin de compte très très peu de temps, et puis pour d'autres personnes, parce que il n'y a pas que l'isolement, il y a d'autres problématiques de santé, de plus en plus de santé psychique, et ça c'est quelque chose qui là aussi me préoccupe, dans la mesure où nous mettons de plus en plus en place des formations, de l'accompagnement pour les bénévoles, justement pour ne pas les exposer eux-mêmes à des situations qui pourraient être problématiques. Mais les bénévoles sont le cœur battant de l'association, c'est eux qui font le quotidien de la maison, et ils sont accompagnés pour pouvoir le faire, parce que je ne connais pas dans ce pays de grandes associations de bénévoles qui n'ont pas un nombre assez conséquent également de salariés pour pouvoir faire en sorte que les bateaux ou les maisons fonctionnent. Mais au-delà de ça, pour vous citer juste un chiffre qui est extrêmement facile à retenir, 2000 personnes dans notre pays, à partir de cette année par jour, fêtent leur 60e anniversaire.
Ah oui.
2000. Dans les maternités françaises, il n'y a que 1600 bébés qui arrivent par jour. Donc on va avoir très bientôt le dépassement avec les plus de 60 ans qui seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Mais on est surtout face vraiment à un changement de paradigme démographique qui se fait dans un moment du pays où, si j'écoute le Premier ministre, il cherche 40 milliards d'euros pour boucler le budget de l'année prochaine. Si on n'arrive pas à changer les tuyaux d'orgue, avec les professionnels d'un côté, les bénévoles, les volontaires, les familles, les citoyens, la caissière du petit supermarché de quartier a autant d'importance pour lutter contre l'isolement social parfois qu'une autre personne, sauf qu'elle ne le sait pas, ou on ne lui dit pas assez que peut-être quand Martine, Monique, Régis ou Fabrice vient à sa caisse, c'est peut-être la seule fois qu'il parle à quelqu'un dans la journée, voire dans la semaine. Et moi je crois beaucoup au fait qu'il faut qu'on puisse expliquer à nos concitoyens tous que certes ils peuvent s'engager aux petits frères des pauvres dans votre association André, etc. Mais que au-delà d'un engagement de bénévole aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne aux citoyens à agir, parce que on est tous détenteurs d'un bout de lien social. Ça commence par bonjour, et ça commence par des modes de comportement. Mais il y a des personnes, notamment je pense beaucoup aux commerçants, qui ne sont pas assez conscients de l'importance qu'ils ont dans le lien social et qu'on ne valorise pas assez pour cela. Et après, vous avez cité, madame, le chiffre, il y a 19 millions et demi de plus de 60 ans dans le pays aujourd'hui. Vous avez 12 millions de personnes entre 60 et 75 ans à peu près. Ce qu'on va appeler, alors souvent des retraités je dis souvent aux responsables politiques quand nous les rencontrons, qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont en retraite aujourd'hui dans ce pays? C'est quoi leur utilité sociale? Pourquoi en France, on se définit toujours par rapport à son travail et pas par rapport à ses engagements?
D'autant qu'ils sont souvent acteurs du quotidien.
Enfin,
ils ont des missions extrêmement importantes, ils sont bénévoles, ils sont dans des associations, ils sont conseillers municipaux, ils sont grands-parents.
Ceux d'aujourd'hui, c'est ce que je cite souvent, ceux d'aujourd'hui.
Oui.
Et j'alerte souvent sur le fait que la logique de l'engagement, elle n'est pas, c'est pas quelque chose. Enfin, on ne crée pas de génération spontanée de gens engagés. D'où l'intérêt aussi de travailler cette question de l'engagement. Est-ce que les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, dans 20 ans, quand ils se prépareront à une retraite, qu'ils auront peut-être eux encore plus tard, seront aussi dans des modes d'engagement? Parce que, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, demain, et notamment par rapport aux conditions financières du budget de l'État, mais aussi pour l'utilité sociale des personnes, pour le projet humain. On aura besoin de plus en plus d'engagés et de bénévoles. Donc autant leur parler aujourd'hui et autant fabriquer les générations de demain.
Et bien, puisqu'on parle de bénévoles, je pense que c'est le moment de laisser la parole à Simone qui va nous dire un peu quel est son engagement, comment elle le perçoit, comment vous y êtes venue. En quelques mots, si vous pouvez nous partager votre expérience, Simone, merci.
Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonjour à toutes et tous. Je suis bénévole chez Passerelle depuis... plus d'un an. J'y suis venue par... je suis à la retraite, je vais le préciser. Voilà, je suis à la retraite. J'y suis venue suite à un contact avec Golda Bloch, qui ensuite m'a présenté André, et puis suite à un échange. J'étais favorable pour ma part à participer à cette activité. Je dis c'est une réelle activité. Alors, pourquoi je me suis engagée? Effectivement, pour donner du temps, aux personnes, avec le sentiment que l'on peut apporter. Alors personnellement, je fais uniquement des appels téléphoniques, mais à travers ces appels téléphoniques, il y a effectivement ce lien qui se crée au fur et à mesure des appels, avec un échange, les personnes qui vont se confier. Alors le rôle, comme vous l'avez dit, c'est effectivement d'être le premier endroit où on est à l'écoute. Et ensuite, on va déceler des difficultés à un moment donné. Et là, on va faire appel effectivement aux structures pour intervenir, soit parce que il y a des documents qu'il faut transmettre à tel endroit où on ne sait pas le faire, ou alors effectivement ne plus avoir la personne en contact. Il m'est arrivé d'avoir une personne, je n'arrivais plus à joindre. Donc effectivement, en tant que bénévole, on va s'en inquiéter, on va se dire que se passe-t-il? Effectivement, voilà, le relais a été pris, contact a été pris, et puis en fait, en contactant les enfants, cette personne avait été changée de domicile et elle était en institution. Parce que, voilà. Alors, pour synthétiser mon activité, je vais dire que j'appelle, pour parler en chiffres, 7 personnes. Elles ont toutes plus de 80 ans, et parmi elles, 5 ont plus de 85 ans.
Mmh.
Voilà, ce sont des personnes, mis à part l'une d'entre elles, qui ont effectivement vécu la Shoah. Et c'est vrai que dans l'actualité d'aujourd'hui, ces appels ont du sens pour faire exprimer aussi parfois certaines angoisses. J'ai beaucoup appris en vous écoutant. Je suis très intéressée de ce que vous avez dit sur le lien aussi avec les professionnels. C'est vrai que vous l'avez dit, on considère les bénévoles comme des amateurs, on va dire, hein, et puis ils comprennent peut-être pas tout. De fait, je pense que c'est un rôle essentiel parce que cet isolement, il amène la mort quelque part. Et pour ma part, c'est une relation qui m'apporte énormément. Parce que j'aime l'échange, en même temps ça m'enrichit, et j'apporte aux gens une écoute indépendamment de leur famille ou de structure. Alors c'est vrai que je peux savoir qu'il y a la femme de ménage qui va venir, que le kiné vient 2 fois par semaine, et toutes ces personnes participent au lien avec ces personnes isolées. Alors ce sont des personnes effectivement qui ne sont pas sur Paris, donc ce sont des relations téléphoniques, mais il se crée au fur et à mesure une relation de confiance et quelque part d'amitié, par rapport à ça.
Oui, je vous rejoins parce qu'en fait, le fait d'appeler ces gens, j'ai l'impression aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, nous, on a des personnes qui nous disent ne pas avoir eu de contact avec de l'extérieur ou même des gens pas plus de 20 minutes dans la semaine. On a du mal à l'entendre, à le comprendre. Et effectivement, de dire qu'on est attendu et que du coup, on est en tant que bénéficiaire, enfin, que ça a de l'importance, qu'il y a des gens qui vont penser à garder ce lien, à nous appeler, que c'est important pour nous d'avoir cette écoute auprès d'eux. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Et le service partage fait ça très bien avec un certain nombre d'usagers, André. Et aujourd'hui, les bénévoles, je dis toujours, c'est gagnant-gagnant. Parce que les bénévoles, vous revenez avec cette idée de dire, oui, nous, on se sent utile, important, on fait de la guidance, on accompagne vers les personnes qui vont pouvoir aider. Et du coup, ça élargit bien plus le champ des possibles que le lien social proprement dit. Et de guider les gens, ils vont être appelés pour peut-être exprimer un désir de partir en vacances, pour exprimer d'autres désirs et d'autres difficultés qui vont être relayées à travers soit les missions d'autres bénévoles, soit les missions de nos professionnels, des professionnels de terrain. Et c'est extrêmement important de dire que quelquefois, ce qui se dit pas auprès d'une assistante sociale, des fois, se dit auprès d'un bénévole. La parole est plus légère ou plus ouverte. Effectivement, vous créez ce lien tout particulier vers ça.
Et puis je pense que ça demande aussi, peut-être qu'on peut appeler Bernard, oui. Le bénévole, mais ça demande aussi, je pense, de la part des institutions professionnelles, un peu d'humilité. C'est-à-dire que les bénévoles sont des gens, bon, comme Simone, elle a été DRH lorsqu'elle était en activité. Ce sont des gens qui ont eu une vie, qui sont compétents, qui ont des richesses, qui ont des choses à nous suggérer. Et comme on le disait à nos bénévoles, on aime quand les bénévoles ruent un peu dans les brancards. On aime bien quand ils nous disent, ils nous remettent les pendules à l'heure, ou ils nous font des remarques qui sont pertinentes. On peut ne pas être d'accord. Mais ce que eux nous apportent, c'est important, même s'ils n'ont pas l'étiquette de professionnel S Action Sociale. Voilà, je crois que c'est important. On appelle Bernard.
Oui, on est en train de l'appeler. On va devoir chausser nos casques. Et puis on va pouvoir avoir le retour de Bernard de cette action, de cet échange avec son bénévole. Voilà. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je m'appelle Sandrine, c'est l'émission S'engager. Nous sommes autour de cette table en train de parler du lien social et nous savons que vous avez la chance d'être accompagnée par une bénévole qui vous appelle régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet échange que vous avez et nous dire ce que ça vous apporte et comment est-ce que ça peut vous aider encore plus? Merci pour votre partage.
Eh bien, écoutez, je vous dirais que d'abord j'ai été surpris la première fois que j'ai reçu cet appel de Simone, au bout de quelques minutes, nous avons fait un échange très très sympathique. Nous avons parlé de nous avons parlé de d'un peu de tout. La conversation a été très très longue, charmante, toujours avec beaucoup de doigté, beaucoup de gentillesse. J'étais très très content d'avoir cette communication parce que je vivais un moment qui était extrêmement difficile. Je venais de perdre ma femme depuis très peu de temps. Mmh. J'étais seul, j'ai pas d'enfant. J'ai bientôt 88 ans. Et vraiment, c'était un rayon de soleil que j'ai eu pendant une bonne vingtaine de minutes, pour pas dire une demi-heure. Mmh. J'étais vraiment aux anges parce que c'était le seul moment de mon existence qui a été à un moment donné tout à fait adapté, tout à fait inattendu et qui m'a fait et beaucoup de bien.
Bernard.
Depuis, pardon.
Excusez-moi, lorsque ça s'est passé, vous habitiez loin de votre femme, du reste de votre famille, vous étiez tout seul?
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais moi je suis dans le nord de la France, mais j'ai deux frères, c'est toute ma famille, et leurs enfants bien sûr, mais qui sont dans le sud par contre. Donc on se téléphone beaucoup, mais on ne se voit pas beaucoup. Donc, le téléphone, pour moi, c'est le seul moyen d'avoir une communication avec quelqu'un, parce que je n'ai pas de communication, en fait.
Et Qu'est-ce que vous diriez du fait, le fait que ce soit une bénévole, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une parole plus ouverte, plus détendue? Vous pouvez vous confier un petit peu? Est-ce que le fait que ce soit d'une bénévole, vous trouvez que c'est une valeur ajoutée aujourd'hui, ce qui est un peu différent de parler avec un travailleur social ou des gens qui peuvent éventuellement vous accompagner? Donc,
absolument, je crois que c'est même très important.